Et au menu donc de notre club des Têtes au Carré cet après-midi, la cacophonie climatique, les menaces donc qui pèsent sur le vin et puis l'histoire de nos origines. Et puis à la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un poumon chez le sélacanthe, ce poisson fossile des abysses. Le poumon étant habituellement un organe absent chez les poissons, c'est une grosse surprise dont on vous parle dans un instant. Stéphanie Texier réalise ce club des Têtes au Carré qui a été préparé par Margot Dullard avec Sylvain Guilbeault et François Mercier.
La Tête au Carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec deux sujets donc sur le climat et un laboratoire consacré à nos origines. Et à mes côtés pour en parler dans quelques minutes, Marie-Odile Monchicourt, Maya Barraud, Sylvestre Huet et Valérie Laramé de Tannenberg. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Sylvestre Huet, dans quelques semaines donc va se dérouler à Paris la COP21, la conférence sur le climat, avec un enjeu évidemment décisif pour l'avenir de l'humanité, on pourrait dire les choses comme ça. Pour l'instant, c'est le discours des bisounours qui domine au pays du changement climatique. C'est ce que vous écrivez en tout cas dans l'introduction de votre livre.
Pas partout, mais il est vrai que souvent dans les médias, on parle d'une manière beaucoup trop gentillette et bisounours de ce sujet, en mettant en scène une opposition entre les gentilles ONG et puis les gouvernements ou les méchants industriels. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus dur. Si on s'enferme dans cette vision un peu naïve du sujet, ce sera contre-productif pour chercher des solutions réalistes.
Oui, et le but de votre livre, c'est justement de nous éclairer pour en savoir un petit peu plus dans ce dossier complexe du climat. Valérie Laramé de Tannenberg, les menaces justement qui pèsent sur les vignes et la production du vin, c'est un bon moyen d'intéresser le public à la cause climatique ?
C'est le seul qu'on ait trouvé. Il y a quelques années de cela, il y avait une consoeur qui avait posé nu pour essayer de sensibiliser et ses rédactions en chef et ses lecteurs aux questions climatiques. Nous, on n'a pas la même plastique, donc on a décidé de travailler sur le vin.
On en parlera avec vous tout à l'heure, objet d'un autre livre. Marie-Odile Monchicourt, l'histoire de nos origines quantiques.
Oh bah oui, pourquoi pas. Autres,
c'est ce que vous allez proposer demain samedi à la Courneuve.
Alors non, demain on parlera des origines du climat et de la vie sur Terre par rapport au climat, bien sûr, puisque c'est le thème du festival Atmosphère qui nous reçoit dans une salle de 1000 personnes. Scientifiques et artistes vont vraiment s'exprimer autour de ce thème.
Ouais, une artiste autour de cette table justement que vous avez conviée, c'est Maya Barraud. Bonjour Maya.
Bonjour.
Les origines de l'univers, ça vous inspire vous en tant que chanteuse ou
pas ? Oula, mais bien sûr. C'est vrai. Ça n'inspire pas.
Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Alors, ça va être de l'impro total ou vous avez préparé quelque chose de précis?
Je pense qu'il y aura les deux.
Ouais.
Parce que, bien sûr, une partie d'impro, parce qu'on ne peut pas répéter avec les scientifiques, on ne sait pas trop ce qu'ils vont raconter, même s'il y a un thème. Donc, on va essayer. Donc, il y a moi qui va chanter, jouer de la flûte, il y a un percussionniste, un clavier qui va envoyer des petits sons et dont des sons de galaxies des fois, des sons de cellules ou je sais pas.
Ah oui, ils sont formidables. Hein,
et
les
puis
artistes.
Une chanteuse d'opéra, une chanteuse classique.
Donc bon, c'est un beau mélange.
Tous de milieux très différents. Et donc il y aura une partie d'improvisation où on va essayer de casser ce côté qui peut être un peu trop intellectuel des fois. Avec moi, je vais peut-être essayer d'improviser à la flûte avec Vincent Fleury qui va parler de la naissance de l'être.
Des origines des vertébrés.
Bon, on y reviendra avec vous tout à l'heure. C'est un beau mélange, en tout cas, entre l'art et la science. Donc demain, à la Courneuve, on va se retrouver tous ensemble dans quelques minutes pour évoquer l'ensemble de ces sujets avec les mails des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et donc à la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un poumon caché chez le sélacanthe. Une surprise de plus pour ce poisson vieux de plusieurs millions d'années.
Alors, la nage du sélacanthe est quelque chose d'extraordinaire. D'abord parce que la plupart de ses nageoires sont pédonculées, c'est-à-dire qu'elles sont fixées au bout d'un petit manchon recouvert d'écailles. Et quand on dissèque ces manchons, à l'intérieur, on découvre des os. Et c'est vraiment l'équivalent, c'est les prémices des pattes des vertébrés terrestres, donc l'équivalent de notre bras aussi.
Voilà, et c'est donc une nouvelle surprise qui a été révélée par les scientifiques au sujet de ce poisson, le sélacanthe, puisqu'une équipe internationale lui a trouvé un poumon grâce au concours d'un accélérateur de particules. L'étude vient de paraître dans la revue Nature Communication. Marc Herbin, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, co-auteur donc de cette étude, et par téléphone également, Paul Taforo, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes paléontologue au synchrotron Grenoble, donc l'accélérateur de particules qui a contribué à cette découverte. Vous allez nous en parler. Marc Herbin, retrouver un poumon chez un poisson, c'est quand même un peu surprenant, non?
On n'en trouve pas généralement uniquement chez des dipneuses, qui sont une espèce de poisson qui a la particularité d'avoir des branchies et des poumons pour suppléer à la respiration quand il y a quasiment plus d'eau. Et chez le sélacanthe, on savait qu'il y avait un diverticule œsophagien qui avait été décrit il y a bien longtemps.
Oui.
Et de découvrir que en fait ce diverticule est bien une relique d'un poumon qui était sûrement fonctionnel il y a des millions d'années, oui, c'est une belle découverte.
Oui, donc relique de poumon, hein, déjà ça précise un petit peu les choses quand même, hein.
Oui, c'est ce qui reste d'un poumon qui devait fonctionner avant, mais qui ne l'est absolument plus maintenant. Et l'étude qu'on a fait sur un adulte et sur un embryon grâce à Paul à Grenoble,
oui,
a montré que le poumon était bien là et que autant chez l'embryon de 4 cm, il était important, le développement de ce poumon s'arrête très rapidement et il reste plus qu'une petite virgule, en fait. Au niveau de l'œsophage chez l'adulte.
Ah oui, vous appelez ça une petite virgule. Donc elle fait combien de centimètres, cette petite virgule?
2 à 3 centimètres.
Ah oui, donc c'est un petit poumon sur un gros poisson, qui est donc le sélacanthe. Oui. Paul Taforo, donc cette découverte a nécessité l'utilisation d'outils très sophistiqués que vous possédez au synchrotron de Grenoble. Vous nous rappelez d'abord ce qu'est le synchrotron?
Alors le synchrotron, c'est un accélérateur de particules. On accélère des électrons et ensuite on les dévie grâce à des champs magnétiques.
Mmh.
Et quand on dévie ces électrons qui sont quasiment à la vitesse de la lumière, ils produisent des photons de la lumière qu'on appelle la lumière synchrotron. Et nous, on utilise cette lumière dans des lignes de lumière. Donc, il faut imaginer des faisceaux lumineux extrêmement puissants.
Oui.
Sauf que c'est pas de la lumière visible, c'est des rayons X qu'on dit durs, c'est-à-dire des rayons X de haute énergie qui peuvent traverser la matière.
Et l'avantage, évidemment, c'est de pouvoir étudier des échantillons sans les détruire du tout.
Alors, un synchrotron, ça sert à énormément de choses, mais une des applications des synchrotrons, c'est l'imagerie à rayons X, comme on peut faire avec un système à rayons X d'hôpital.
Mm-hmm.
Sauf qu'un synchrotron, c'est 10 puissance 14 fois plus puissant. Donc, vous imaginez un 1 et 14 zéros derrière, ça vous donne une idée de la puissance de ce type de faisceau.
Ouais.
Mais ce qui est bien quand on a autant de photons, et surtout quand on a les photons de très bonne qualité, dirons-nous, c'est qu'on peut se permettre d'en prendre qu'une toute petite partie pour obtenir une qualité d'image qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire sur une source de rayon X comme celle d'un hôpital ou comme celle d'un microscanner.
Et donc ce qui vous a permis d'étudier des embryons, hein, c'est que là vraiment vous allez dans des choses tout à fait minuscules.
Alors pour nous, c'est pas minuscule, en ce sens que les synchrotrons d'habitude sont connus pour l'imagerie sur des objets extrêmement petits, de l'ordre du millimètre ou plus petit encore. Là on est sur des échantillons qui vont de 4 cm à peu près 25 cm pour le plus grand des embryons qu'on a fait.
Mmh.
Donc pour un synchrotron, c'est plutôt très grand, c'est exactement l'inverse.
Oui.
En fait, le vrai défi qu'on a eu, c'était d'arriver à appliquer sur des objets d'aussi grande taille des techniques qui marchaient très bien sur les petits objets. C'est comme si vous vouliez regarder quelque chose avec un microscope, sauf que ce que vous voulez regarder est plus gros que le microscope.
Mmh. Marc Herbin.
Donc ça a été vraiment un défi inversé, en fait. C'était d'arriver à avoir la qualité qu'on a normalement dans les réseaux microscopiques, réussir à faire ça sur un objet qui était déjà de l'ordre de 10 cm.
En tout cas, Marc Herbin, c'était effectivement nécessaire de faire appel au synchrotron pour pouvoir faire ces dissections virtuelles de petits embryons, donc.
Tout à fait, c'est tout à fait indispensable et la collaboration avec Paul est très riche puisque il existe un seul embryon de 4 cm de sélacanthe au monde, donc il n'était pas question de disséquer le spécimen et c'est grâce à ce type de collaboration qu'on peut avancer dans nos recherches.
Et donc l'embryon et le poumon, donc par rapport à la taille de l'embryon, est beaucoup plus important qu'une fois que le sélacanthe grandit, hein.
Tout à fait, oui, la proportion relative est complètement inversée. Chez l'embryon, le poumon, enfin le poumon réel prend une grande place par rapport à la taille globale des viscères, et quand on regarde chez l'adulte, comme je vous disais, c'est quelques centimètres comparé à des viscères qui font on va dire jusqu'à 80-90 cm, hein. L'animal adulte peut atteindre 2 mètres.
Ouais, donc le sélacanthe possède cette petite virgule dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi il a abandonné son poumon en somme?
Eh ben, on pense qu'il n'en avait plus besoin. Les premiers sélacanthes qui ont émergé il y a 400 millions d'années étaient des animaux qui vivaient aussi bien dans l'eau salée que l'eau douce et qui vivaient aussi bien à quelques mètres de profondeur que peut-être plus profond. Donc on peut penser qu'à certaines périodes, le sélacanthe avait besoin d'un complément respiratoire grâce aux poumons. Et après la crise des grandes crises, on pense que les sélacanthes qu'on retrouve actuellement sont une lignée qui aurait migré vers les grands fonds. Hein, c'est pas des poissons abyssaux, c'est des poissons des grands fonds. Et donc les poumons auraient régressé ou ne seraient pas développés, mais seraient toujours présents.
Paul Taforo, pour terminer, la physique des particules, c'est donc utile en paléontologie. Vous avez d'autres projets là dans ce domaine ?
Alors en fait, oui. L'exemple qu'on vient de voir, c'est le résultat de gros efforts qu'on a fait au cours des trois dernières années dans ce qu'on appelle le projet de l'upgrade de l'ESRF. Donc c'est une remise à jour du synchrotron. Mm-hmm. Il va y en avoir une deuxième phase encore beaucoup plus importante dans 3 ou 4 ans. Mais donc cette première phase a permis ce genre d'application en biologie, mais également a permis d'ouvrir complètement des nouveaux horizons pour l'imagerie des fossiles, qui est encore plus compliquée que l'imagerie des échantillons biologiques, et plein d'autres applications, plus dans la science des matériaux et autres. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ces applications avec cette technique qu'on appelle le contraste de phase, on les a vraiment poussées beaucoup plus loin que ce qui se faisait avant. Et ça a énormément changé notre façon même d'envisager les projets de recherche.
Et apparemment, vous allez suivre l'évolution des embryons in vivo dans les œufs de tortue ou de crocodile. Hein. Je crois que c'est partie des projets qui arrivent.
C'est ça, en fait, c'est la technique qu'on a développée là. Ouais. On va la rendre beaucoup plus efficace pour utiliser moins de faisceaux, moins de doses, pour la rendre compatible in vivo. On n'y est pas encore, mais normalement, on devrait y arriver dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent.
Merci en tout cas beaucoup Marc Herbin et Paul Taforo pour vos explications à l'occasion de la parution de cette publication donc au sujet de la découverte de ce poumon chez ce poisson fossile, le sélacanthe. Merci beaucoup d'être passé dans le club de la tête au carré. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une nouvelle science est née, on l'appelle la sonogénétique, c'est l'utilisation des ondes ultrasonores pour activer des neurones chez un animal. Les chercheurs américains viennent de montrer qu'il est possible d'activer des cellules nerveuses chez un ver en utilisant ces ondes. L'ultrason servira à influer sur l'expression des gènes du ver afin de pouvoir manipuler ces neurones. Cette découverte pourrait servir à l'étude du réseau neuronal de gros vertébrés. Une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, c'est ce que des chercheurs américains de l'Université de Californie viennent de mettre au point. Cette cape est encore microscopique puisqu'elle ne mesure que 80 nanomètres, mais il serait bientôt possible d'en augmenter la taille pour dissimuler de plus gros objets. Étude publiée dans la revue Science aujourd'hui. Et puis la 25e édition des Ig Nobel, c'était hier soir à l'université d'Harvard. Ces prix récompensent chaque année des chercheurs les plus loufoques et les plus insolites, et leurs études en particulier, qui cherchent à faire rire mais aussi à faire réfléchir. Hier, Michael Smith a reçu l'une des nombreuses récompenses grâce à son travail sur les piqûres d'abeilles. Le chercheur a dû subir 3 piqûres différentes dans 25 endroits de son corps afin de mesurer les zones les plus sensibles, et selon lui, ce sont les narines, les lèvres et le pénis qui arrivent en tête. Tous les prix et la diffusion de cette cérémonie sont en lien sur le site de la Tête au Carré. Allez, notre club dans un instant.
Cable. I can't sit now, my mind is frozen, broken by the screaming guys.
We Are Match sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et nous ouvrons ce nouveau club avec trois nouveaux sujets, la cacophonie climatique, les menaces qui pèsent sur le vin et l'histoire de nos origines. Mes invités Marie-Odile Monchicourt, Maya Barraud, Sylvestre Huette et Valérie Laramé de Tannenberg et vos messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Sylvestre Huette, vous êtes donc journaliste scientifique à Libération, vous suivez ce dossier climatique maintenant depuis de très nombreuses années. Vous serez sur le pont à partir du 30 novembre, j'imagine, au Bourget pour la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat. D'abord un mot sur la météo, parce qu'on a reçu des nouvelles encore des derniers bulletins. Le mois dernier, le mois d'août, est le plus chaud jamais enregistré sur la planète, depuis le début des relevés de température en 1880. C'est ce qu'a annoncé à nouveau l'Agence américaine océanique et atmosphérique. La température à la surface des océans a même été la plus élevée jamais enregistrée. Août, c'est donc le sixième mois en 2015 à battre un record de température mensuelle à la surface du globe. On parle de météo, de climat dans ces cas-là, Sylvestre Huette, parce qu'on est tenté de faire des conclusions hâtives peut-être, non ?
En fait, là, on parle de fluctuations pluriannuelles de l'océan Pacifique tropical. Si en 2015, on va probablement taper le record de température sur 12 mois de janvier à décembre, c'est évidemment parce que depuis 50 ans, les températures de l'air s'élève en raison de nos émissions massives de gaz à effet de serre, mais ça c'est une tendance de long terme. À court terme, quelques années, ce sont des fluctuations internes du système climatique terrestre qui impriment leur marque. Et il y en a une, la plus importante en fait, se passe dans l'océan Pacifique tropical. C'est la plus importante tout simplement parce que l'océan Pacifique, c'est le plus grand océan de la planète. Et donc quand il s'y passe quelque chose de fort, ça impacte les températures planétaires. Là, on est en phase El Niño, comme on dit, dans le Pacifique, donc toutes les eaux centrales et du côté des Amériques se réchauffent beaucoup par rapport à leur situation moyenne. Et du coup, ça hisse l'indicateur de température planétaire vers le haut. Et donc, probablement, alors que la dernière année chaude, ma record, c'est simplement 2014, eh bien, probablement, 2015 sera au moins aussi chaud et très certainement plus chaud encore.
Depuis quand la température moyenne à la surface de la planète a commencé à s'élever rapidement ? Vous donnez une date précise ?
On peut dire que depuis les années... la fin des années 70, la tendance est là et elle est extrêmement rapide au regard des fluctuations naturelles du climat.
Ce livre, Les Dessous de la cacophonie climatique, donc il arrive aux éditions La Ville Brûle. Je serais tenté de dire encore un livre sur le climat, parce que alors là, en ce moment, mais c'est une avalanche absolument hallucinante. On a à peu près un livre par jour sur la question, quand
même. Du coup, quand l'éditeur m'a dit, Sylvestre, il faudrait quand même qu'on ait un livre pour à l'occasion de la COP21, je me suis un peu creusé la tête. Et j'ai décidé de faire court, pas cher, 10 euros.
Mais vous vouliez taper fort.
Donc, du coup, quand on fait court, ça conduit à ne parler que de l'essentiel. Et puis à soulever les problèmes qui font mal.
L'essentiel, c'est quoi ? C'est le problème des énergies fossiles, par exemple ?
L'essentiel, d'abord, c'est de bien résumer la science, parce qu'elle n'est pas toujours bien présentée. Donc, en m'appuyant sur ma connaissance du sujet et les travaux du GIEC, j'ai fait un résumé lapidaire, en élaguant toutes les branches, certes importantes, mais pas essentielles. Il y a que le tronc, on va dire, de la science du climat dans le livre, mais il y est. Une fois qu'on a posé ça, après... il faut aller aussi à l'essentiel, mais sur les volets, on va dire, économiques, politiques, géopolitiques du dossier climatique. Et là, moi, j'ai l'impression que l'essentiel, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, parce que ça permet de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que, puisqu'on sait qu'il y a un problème, et on le sait depuis 1992, et on sait les gouvernements, puisqu'en 1992, à Rio, ils ont signé la Convention climat de l'ONU. Ils ont reconnu qu'il y avait un problème. Comment ça se fait que depuis, on n'a pas cessé d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du problème ? Eh bien, moi, je pense que dans le livre, en fait, j'apporte la réponse à cette question.
Oui. Alors, vous pouvez nous la donner ? Ça nous fera gagner du temps.
Oui, c'est simple. C'est que il s'agit justement pas d'un problème de gentil et de méchant. Ou de pollution, comme on parle de la pollution au mercure ou à tel autre polluant atmosphérique ou aux pesticides. Il faut poser l'équation énergétique du monde. L'équation énergétique du monde, c'est que 80% de l'énergie utilisée par les gens pour manger, pour se loger, pour avoir un toit, du chauffage là où il fait froid, pour se déplacer, pour aller travailler, pour échanger les biens qu'ils produisent. Ça, à 80%, c'est charbon, gaz, pétrole. C'est énergie fossile. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les progrès de niveau de vie qui ont été effectués ces 50 dernières années dans les pays anciennement industrialisés ont été faits essentiellement avec de l'énergie fossile. Ça veut dire aussi que si on utilise les mêmes technologies, pour les 5 milliards d'êtres humains qui aimeraient bien vivre comme nous, aujourd'hui, l'offre technologique, c'est pour l'essentiel à 80% de l'énergie fossile. Mmh. Et si vous regardez les inégalités dans le monde, en termes d'émissions de gaz à effet de serre issues de ces énergies fossiles, l'échelle, ça va de 0,1 tonne par habitant et par an. Mais là, c'est qui ? C'est les Éthiopiens, c'est les habitants du Congo, c'est les Cambodgiens, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des conditions qu'on considérerait comme inacceptables en Europe de l'Ouest. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez, par exemple, chaque habitant des États-Unis d'Amérique qui émet 16 tonnes de CO2 par tête de pipe et par an, à comparer aux 0,1 tonne. Or, l'autre chiffre qu'il faut connaître, c'est que pour ne pas bousculer durablement le climat et poser des problèmes très graves pour nos descendants, faudrait que chaque être humain émette pas plus que 2 tonnes. Alors, pas plus que 2 tonnes quand on est à 16,
c'est compliqué,
ou à 9 comme les Allemands, ou à 6, 7 comme nous. Ça veut dire qu'il faut vraiment diminuer énormément les émissions.
Oui. Lorsque Barack Obama lance le 31 août une mise en garde à la communauté internationale sur le changement climatique en disant « nous n'agissons pas assez vite », ça vous fait plaisir ou ça vous fait rire ?
Je pense qu'on peut toujours plaisanter même des choses très sérieuses. Mais le fait est que il faut agir vite parce que même si les changements climatiques brutaux qui vont faire vraiment du mal aux gens, c'est pour après 2050, en raison d'une part de l'inertie du système climatique naturel, parce que les molécules de gaz à effet de serre qu'on met dans l'air, notamment le CO2, vont y rester pendant longtemps, des décennies, voire 2 siècles en moyenne pour le CO2. Donc on est obligé d'agir maintenant sur nos émissions pour avoir un effet climatique demain, dans 30, 40, 50 ans. Et puis d'autre part, en raison de l'inertie de nos systèmes techniques. Quand on construit une centrale électrique, un réseau de transport, un port, enfin tout ce qui se traduit par de la consommation d'énergie, on ne le construit pas pour 10 ans. Donc si on le construit aujourd'hui sur la base de « on va faire ça avec de l'énergie fossile », c'est parti pour très longtemps. Donc quand Obama dit « faut agir vite », ça correspond à l'une des données les plus fondamentales du problème. Mais d'un autre côté, moi quand je regarde les prévisions des États-Unis sur leur consommation d'énergie, et ben justement, il n'y a rien qui permet de croire qu'ils vont agir.
Marie-Odile Monchicourt.
Alors, vous avez dit, Sylvestre, que vous avez frappé fort là où ça fait mal. Moi, ça ne me donne pas du tout envie d'acheter votre livre.
Qui n'est pas préfacé par Jean Jouzel.
Vous ne voulez pas savoir...
J'ai pas envie d'avoir mal.
Vous ne voulez pas savoir où est le problème.
Quel pot de vache.
Non. Je dis ça parce que je connais bien Sylvestre et que je sais qu'il aime bien frapper là où ça fait mal. Et c'est là tout son talent de grand journaliste scientifique. Mais c'est vrai que pour moi, justement, la divulgation de toutes ces connaissances est d'autant plus difficile qu'elles font mal, quoi. Et je pense que l'inertie...
C'est pour ça qu'il faut parler de vin, par exemple, vous voyez.
C'est quoi qui fait mal dans le système, dans le problème ? C'est quoi qui fait mal ? D'abord, c'est
que personne ne fait rien.
Non, parce que ça, on le sait. J'ai pas besoin de l'expliquer. Ce qui fait mal, c'est que personne de sérieux, chez les économistes ou les observateurs du sujet, peut croire qu'on arrivera à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre sans des réformes structurelles dans nos sociétés véritablement profondes. Alors les économistes comme Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, vont l'exprimer avec des mots très polis. Ils vont dire, oui, on ne peut pas résoudre le problème climatique dans des sociétés avec des fortes inégalités sociales. Bon, moi, dans le livre, je le dis autrement. Je dis, faut supprimer les riches.
Oui, c'est plutôt radical. Oui.
C'est radical, mais en fait, c'est nécessaire.
Ce sont les riches qui vont acheter.
Je prends un exemple. C'est pour ça qu'ils ne coûtent que 10 euros. Mais je prends un exemple. On ne peut pas demander à des populations entières, aux Français par exemple, une consommation de sobriété énergétique générale s'il y a une caste dans la société qui, elle, n'a pas de limite à sa consommation d'énergie et de matières premières parce que c'est juste une question d'argent. Or, elle a plein d'argent. Prenons un exemple qui n'est pas anecdotique. Les voitures. Comment voulez-vous demander aux Français de tous rouler dans des petites voitures qui consommeront 3 litres au 100 et qui dépasseront pas les 90 à l'heure s'ils voient passer les Porsche et les Ferrari? Moi, je dis que pour supprimer les Porsche et les Ferrari, il faut supprimer la capacité que ont certaines personnes à acheter des Porsche et des Ferrari. Alors, c'est radical comme solution, mais c'est efficace.
Valérie Laramé-Tannenberg.
Fort heureusement, on peut acheter des vins pas chers,
ah ben voilà.
Qui sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre.
Valérie, lui, veut prendre soin de nous, voyez, il amène un peu de vin, voilà, et c'est tout de suite l'euphorie qui gagne ce studio. En tout cas, la COP21, fin novembre et début décembre, Sylvestre Huette, a déjà un petit peu le parfum de l'échec, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on dit qu'il faut mesurer maintenir à 2 degrés, l'échec alors... par rapport au possible, et non pas par rapport aux vœux pieux ou aux souhaitables dans l'absolu, dans un monde idéal qui n'existe pas. La COP21, ça rassemble des gouvernements. Donc, ils vont mettre sur la table ce qu'eux, ils sont capables de faire aujourd'hui.
Oui, maintenir
et
à
pas
deux...
ce qu'il faudrait faire.
Maintenir à 2 degrés quand on sait qu'on est probablement plutôt à 3 ou à 4 degrés, est-ce que c'est bien raisonnable, justement, sur un rendez-vous de cette ampleur avec des enjeux aussi importants?
Alors, ce qui est certain, c'est que si vous prenez les promesses que les États ont commencé à mettre par écrit pour la négociation finale de la COP21, et que vous les additionnez et que vous les soumettez à un climatologue, il traduit ça, puisque c'est des promesses en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il traduit ça en climat, et il vous dit, le compte n'y est pas. Oui, aujourd'hui, l'humanité n'est pas capable d'affronter le défi collectif qu'elle s'est à elle-même posé en changeant le climat, et la COP21 va le montrer. Ce n'est pas une raison pour parler d'échec. En fait, la COP21, c'est un succès si on y acte ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Et c'est clair que, par exemple, la plupart des sociétés ne sont pas en capacité de mettre en cause le modèle économique dominant qui leur fait notamment avoir de fortes inégalités sociales. Or, ça, c'est nécessaire si on veut avoir des politiques climatiques efficaces.
Et ça s'appelle « Les dessous de la cacophonie climatique » aux éditions La Ville Brûle. Et je suis sûr que certains auditeurs auront envie d'acheter ce livre qui ne coûte que 10 euros et qui compte 140 pages.
Et attention, attention à ce que vous dites. Je vais être la première.
Oui, parce qu'il va se venger tout à l'heure. Vous avez un rendez-vous à vendre pour demain, vous, Marie-Odile Monchicourt. Attention à ce que vous dites. C'est le club des Têtes au Carré en ce vendredi. On se retrouve dans un instant justement pour parler de l'histoire de nos origines.
Dans la lumière, dans le noir, j'ai perdu mes repères. Cours, cours, cours et fonds-toi dans la lumière.
Vous vous dites peut-être, tiens, c'est un titre d'Erita Mitsuko que je ne connais pas. Eh bien, figurez-vous que c'est la fille de Catherine Ringer qui chante dans le groupe Minuit avec un instant Flash.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Voilà, une autre fille de chanteur, Maya Barrou, hein, aussi, qui est avec nous, puisque vous êtes la fille de Pierre Barrou, mais vous n'avez pas la voix de votre père, hein. Comme la fille de Catherine Ringer, c'est quand même assez étonnant. Hein.
Oui, c'est très étonnant. Oui.
Ce qu'on vient d'entendre, vous serez avec Marie-Odile Monchicourt pour le Labo Origins, ce sera donc demain, dans le cadre du festival Atmosphère à la Courneuve, Marie-Odile.
Non, pas à Courbevoie. Ah non, mais c'est très...
Oh là là,
vous l'avez déjà dit deux fois.
Si j'envoie les gens à la Courneuve, ça va être affreux.
Ça va être affreux.
Non, c'est Courbevoie.
Courbevoie. Magnifique festival, vraiment, tout est gratuit avec des films superbes en avant-première. Non, je leur fais de la pub parce que j'y suis.
Évidemment.
Non, mais c'est vraiment chouette quand même.
Vous êtes journaliste scientifique, vous travaillez à la mise en spectacle. Non, c'est pour défendre Sylvestre en fait, c'était juste un petit brouillage de piste. Mais il faut aller à Courbevoie.
Non, mais c'est vrai que c'est un festival extraordinaire.
Ouais. Festival atmosphère.
C'est une association d'abord, Origins, Marie-Odile Monchicourt. Hein.
Oui, c'est une association qu'on a créée avec notamment Michel Spiro. Justement parce que Michel Spiro, qui est physicien, qui a été président du conseil du CERN, et c'est avec lui que j'ai commencé à démarrer une aventure. Je me rendais pas
compte. C'était gonflé, hein.
Ah ouais, c'était gonflé. Puis d'ailleurs, c'est encore très très difficile à mener parce que, en fait, Michel Spiro, comme moi, on avait très envie que toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude du tout d'aller écouter des conférences scientifiques et qui n'ont pas du tout de lien avec la science, parce qu'ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. On voulait absolument qu'ils soient mis en contact avec toutes les magnifiques résultats, les magnifiques résultats des scientifiques sur le thème des origines en particulier, comme le boson de Higgs, par exemple, et puis l'image du fond diffus de l'univers, tout est parti de là. Ouais. Alors effectivement, à des gens qui n'y connaissent rien, comment faire passer combien ces découvertes sont extraordinaires. Et on s'est dit qu'il n'y a que par l'art, par la sensibilité, par les émotions. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé après 3 ans de...
À l'UNESCO ?
Ah ben oui, ça a été
quand
une
même,
première étape.
Septembre 2013.
Mais il n'y avait pas d'artistes là parce qu'on n'avait pas du tout de quoi les payer.
C'était la nuit des origines.
On n'a toujours pas de quoi les payer d'ailleurs.
Mais il y a quand même des artistes.
Je suis pas au courant.
Mais oui, et puis il y a eu un spectacle aussi de 20 minutes sur le vide quantique. Moi, je voulais qu'il y ait des danseurs et tout ça, et puis avec Et puis là, nous en arrivons à ces labos origines qui sont nés parallèlement, parce que je me suis dit, il faut absolument que les scientifiques et les artistes se rencontrent pour que les artistes s'imprègnent de toutes ces connaissances avant de pouvoir exprimer tout leur imaginaire autour de tout cela. Et on a commencé par les faire d'une façon tout à fait informelle au laboratoire d'astroparticules et cosmologie. Donc les scientifiques étaient dans leur univers, donc ils n'avaient pas de mal à s'exprimer comme d'habitude. Mais les artistes, ils avaient du mal, ils se sentaient pas très à l'aise. Donc il fallait mettre tout le monde dans un théâtre. Et là, le théâtre de la Reine Blanche nous a reçus, qui est un petit théâtre du 18e arrondissement.
Non, pas du 18e siècle.
Du 18e arrondissement. Et dans ce théâtre, on a commencé vraiment là à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les labos origines, c'est-à-dire ces rencontres entre scientifiques qui racontent leurs découvertes et les artistes qui, pratiquement en direct, expriment toutes les émotions qu'ils peuvent éprouver par rapport à ça, à tout ça.
C'est ce que vous avez demandé à Maya, par exemple, alors, Maya Barrou.
Voilà, pour ce Labo Origins, alors là...
À Courbevoie,
devant une salle de 1000 personnes, c'est-à-dire que le théâtre de la Reine Blanche, c'est même pas 200 personnes, donc il y a un côté intimiste. Mais là, quand on nous propose une salle de 1000 personnes avec un écran de 14 mètres, ça nous fait aussitôt passer à une dimension supérieure.
Donc il y aura des images aussi de l'univers en rapport avec cette thématique.
Il y aura des images, mais on va pas trop mettre d'images que tout le monde connaît de galaxies tout ça, parce que on veut cibler l'imaginaire. Vous savez bien que quand on est des gens de radio, Mathieu, on sait bien que c'est pas forcément l'image qui stimule l'imaginaire des gens. Donc on va jouer de façon très très subtile avec les images. Mais moi je voudrais tout de suite remercier aussi bien les scientifiques que les artistes pour leur participation, parce que c'est un exercice tout nouveau pour les uns comme pour les autres, et on va demander à Maya comment elle vit tout ça.
Voilà, alors donc c'est demain.
Quelle merveilleuse.
C'est ça, elle fait bien les transitions. Mais j'aime bien inviter Marie-Odile parce que je me repose.
Oui, c'est ça, là, en fait.
C'est très pratique. Donc Maya, pour vous demain, avec par exemple Jean-Pierre Bibring, c'est ça, oui, Vincent Fleury, Pierre-Henri Gouillon, ou Pierre-Louis Desprez, qui est philosophe. Vous allez faire quoi alors?
Alors, tout ce beau monde. Bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire?
Vous savez pas encore finalement.
Bah, il y a une partie de suspense, c'est vrai, mais une partie où on a un peu décidé quelques morceaux, parce que donc il y a moi qui va chanter, il y a aussi Lucille qui est une chanteuse d'opéra. Donc on vient vraiment tous de milieux très très différents.
Lucille Vignon.
Lucille Vignon. Donc en fait, au début, comment ça s'est passé, c'est Marie-Odile qui nous a invités chez elle. Qui nous a expliqué le concept. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve que, en fait, ça pourrait sembler bizarre ou pas un peu bizarre en fait, comme un peu osé, gonflé, on va dire, comme projet. Mais en fait, je trouve ça assez naturel parce que voilà, on est des corps. Moi, je chante. Je vais pas penser à mes cellules et à mes molécules à chaque fois, mais quand même, forcément, je pense à mon corps. Je pense à l'être. Là, je viens de faire un album qui parle aussi de Fukushima et
Kodama,
de la vie, la mort. Donc, je pense que ça
nous regarde.
Hein. Et l'atome, je pense que, en fait, ça nous regarde tous. Et quand on est artiste, je pense qu'on ne peut pas ne pas être sensible à ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout scientifique, donc je vais parler avec mes mots d'artiste. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est très inspirant. Ouais. Et la science et la poésie. Enfin, pour moi, quand j'entends, même si je ne comprends pas tout,
je trouve que c'est
de la poésie, et accompagné par un peu de son, ça, voilà, je pense que c'est, ça peut justement casser ce côté où, comme tu disais, enfin les gens ils ont peur parce qu'ils vont se dire je vais pas comprendre et tout. Bah ouais, bah on peut ne pas comprendre, mais on peut aussi être très inspiré et puis être emmené.
Dans un imaginaire que nous partageons tous,
bien sûr,
aussi bien les scientifiques que nous qui n'y connaissons rien.
On vous écoute, Maya Barou, extrait justement de cet album Kodama, c'est Soran Bouchi. Voilà, pour entendre par exemple le travail de Maya Barou sur cet album Kodama qui est sorti cet hiver, qui associait donc les chants traditionnels japonais et puis votre travail électro, vos compositions.
Moitié japonaise.
Voilà. Après donc la catastrophe de Fukushima, en tout cas vous avez.
Je me suis replongée, dans une de mes racines.
Ouais. Vous serez donc présente demain avec d'autres artistes à Courbevoie. Ça commence à quelle heure, Marie-Odile?
Atmosphère.
17h30.
Et en ce moment, c'est le festival Atmosphère.
Allez-y, tout est gratuit. Avec des films, il y a un film d'Hubert Sopper juste avant le Labo Origins, et puis après le Labo Origins, il y a Human de Yann Arthus Bertrand. Enfin, faut en profiter, quoi. C'est magnifique.
Et donc, c'est demain pour vous avec ce Labo, 17h30, et puis d'autres rendez-vous. Ça viendra aussi en septembre. Hein, encore, vous avez une autre date justement au théâtre.
La semaine suivante, le 20. Alors là, ce sera sur les origines de la pensée et de la conscience.
Et là, c'est les origines du climat, justement, là, demain, puisque c'est
demain,
un peu
c'est le thème des origines du climat et de la vie sur Terre par rapport à ce climat, évidemment.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler du vin et du réchauffement climatique. Dernier sujet de ce club. Mad News, Moon Martin sur France Inter.
Direction le Penedès, au sud de Barcelone. Avec 2500 hectares de vignes et plus de 50 millions de bouteilles écoulées chaque année, la Bodega Torres est l'un des plus grands domaines du pays. Son patron n'apprécie guère le soleil, et pour cause.
La vigne, hein.
La vigne est la plante la plus sensible à la chaleur. Et si les températures augmentent encore de 2 ou 3 degrés, on pourra toujours faire des salades, des carottes ou des tomates. Mais le raisin, ce sera différent. Nos vins ne seront plus bons.
Voilà l'exemple de l'Espagne, hein, extrait d'un documentaire Avenue de l'Europe sur France 3. Valérie Laramé de Tannenberg, vous êtes rédacteur en chef du journal de l'environnement et vous publiez avec Yves Lers « Menace sur le vin, le défi du changement climatique » aux éditions Buchet-Chastel. De quoi nous intéresser à cette question climatique sous l'angle donc du vin. Depuis combien de temps justement est-ce que le changement a un réel impact sur la vigne ?
Depuis que la viticulture existe, donc depuis 6000 ans maintenant, on a retracé... l'histoire dans notre livre, en tout cas depuis l'arrivée des Grecs à Marseille, c'était les premiers réfugiés, et ce sont eux qui ont introduit la viticulture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et on peut estimer que la viticulture subit aujourd'hui son troisième changement climatique. Et jusqu'à présent, les vignerons ont plutôt réussi à surmonter l'obstacle. On verra ce qu'il en sera dans les prochaines décennies.
Est-ce que Sylvestre Houette, on parle du vin dans les rapports du GIEC ou pas ?
Oui. Oui. Il y a des études de l'INRA sur le sujet et de ce point de vue, le livre de Valérie est passionnant.
Christophe nous dit sur Twitter, comme il a fait chaud cette année, le raisin est très bon, le réchauffement climatique c'est donc bon pour le vin. Ben, c'est tout le paradoxe hein, finalement.
Alors, c'est ce que disent effectivement les vignerons français, ils sont ravis du changement climatique.
Le vin n'a jamais été aussi bon.
Absolument, et c'est ce qu'on constate, on a compulsé les registres de dégustation de courtiers bordelais, ouais, qui les ont précieusement gardés depuis le début du XXe siècle, et on voit bien que, en gros, depuis les années 60, on fait régulièrement de très très bonnes années. Le problème, c'est qu'on atteint dans certaines régions l'optimum, ouais, qu'on ne pourra pas faire mieux, et que si ça se continue à se réchauffer, si ça continue à se dessécher, eh bien, la vigne, en tout cas telle qu'on la cultive aujourd'hui, ne produira plus d'aussi bons raisins.
Ouais, donc la situation finalement n'a jamais été aussi grave alors que le vin n'a jamais été aussi bon. Voilà, c'est tout le paradoxe hein, finalement que vous pointez.
Alors c'est tout le paradoxe, simplement les conséquences du changement climatique, elles sont très diverses et elles changent selon les régions. Et c'est bien l'intérêt de l'étude qu'on a menée, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des régions qui vont profiter du changement climatique.
Alors lesquelles par exemple ?
Alors bah, l'exemple le plus connu c'est celui de l'Angleterre. Il n'y avait aucun vigneron après la Seconde Guerre mondiale, il y en a aujourd'hui 500 et qui commencent à produire des vins, notamment des blancs champanisés,
c'est ça,
qui
ouais,
sont tout à fait comparables aux moyens de gamme français.
Ouais. Qu'est-ce que ça dit justement de régions comme Reims, précisément, sur
alors,
un horizon
pour l'instant,
à moyen terme
les Champenois sont plutôt contents. La légende veut qu'ils commencent à acheter des terrains ailleurs, ouais, en Grande-Bretagne en particulier. Les Bourguignons les ont devancés, puisqu'il y a des grandes maisons de Bourgogne qui ont acquis récemment des grands domaines aux États-Unis, au Canada. Ouais. Donc on est en train de voir que non seulement l'industrie se mondialise, effectivement, mais que les grandes maisons du vin et la Bodega Torres en fait partie, commencent à prendre des positions un peu partout pour pouvoir continuer à produire du vin ou qui pourront satisfaire le plus grand nombre de clients.
Sylvestre Huette.
Parce que je trouve très intéressant dans l'excellent livre de mon confrère.
Lui, il vend bien les bouquins de ses copains. Hein.
Voilà. Hein, c'est qu'il montre bien dans toute la fin de son ouvrage tous les efforts mobilisés par les viticulteurs, les vinicultures et par les scientifiques de l'INRA pour anticiper les problèmes du réchauffement futur et essayer d'anticiper des ouais, solutions.
Il faut dire qu'il y a des enjeux économiques qui
oui,
sont hallucinants quand même.
Justement,
hein,
c'est l'une des pistes qui permettent de comprendre où se trouvent les problèmes fondamentaux du changement climatique. C'est que oui, dans un pays développé, riche comme la France, qui a l'INRA pour travailler avec les viticulteurs sur ça, on peut anticiper les changements, essayer de s'y préparer et essayer de s'y adapter. Parce qu'on en a les moyens intellectuels, financiers, techniques, scientifiques. Mmh. Le problème, c'est que, en général, l'humanité n'est pas dans cet état-là.
Ouais. Il y a une prise de conscience chez les viticulteurs très forte, justement,
alors,
Valérie Laramé et Tannenberg.
Dans les grandes maisons, sans aucun doute. Hein, ouais, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils travaillent sur ce sujet depuis une vingtaine d'années et ils font de très gros progrès, non seulement dans les pratiques culturelles, dans les pratiques de vinification, mais également ils préparent les vins de demain. C'est moins vrai, effectivement, chez les petits vignerons en tout cas tous ceux qu'on a interrogés, que ce soit en Bourgogne, dans le Bordelais ou ailleurs, ils constatent effectivement certains phénomènes comme l'avancée des dates de vendange, comme la forte montée du taux d'alcool, mais ils refusent de considérer que c'est là l'une des conséquences du changement climatique. Pour eux, le temps a toujours varié, et ils ont raison en ça, mais ils ne considèrent pas que c'est une tendance lourde à long terme auquel ils devront répondre.
Sauf que là, lorsque l'on regarde la courbe des degrés, ça augmente quand même d'un degré tous les 10 ans, à peu près.
Dans certaines régions, oui, absolument. Et on voit aujourd'hui, par exemple, à Châteauneuf-du-Pape, des bouteilles qui sont officiellement vendues avec un titre de 16 degrés, ce qui veut dire qu'elles flirtent plutôt avec les 17-18 degrés.
C'est ça.
Ce qui est très inquiétant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Californie, où la quasi-totalité des vins sont trop alcoolisés, et comme la fiscalité taxe lourdement les vins trop alcoolisés, ils sont obligés de les désalcooliser avec des techniques issues ou du traitement de l'eau potable ou de l'agroalimentaire.
Juliette sur Twitter nous dit ceci: si le climat se réchauffe, est-ce qu'on peut imaginer du vin scandinave?
On a déjà du vin scandinave, on a déjà du vin belge, on a déjà du vin polonais. On est en train de voir apparaître une grande nation viticole auquel personne n'aurait songé il y a 20 ans, que c'est le Canada.
Oui. La région de Bordeaux a atteint son optimum climatique déjà aujourd'hui ?
Oui, absolument. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les Bordelais testent dans des parcelles effectivement gérées par l'INRA le nouveau cépage, et que très récemment, au mois de juin, le président du CIVB, le comité des vins de Bordeaux, a demandé à l'INAO, qui gère les appellations d'origine contrôlée, de pouvoir tester en vraie grandeur de nouveaux cépages qui seront issus probablement du Portugal pour pouvoir préparer les vins de demain. Et je crois que la vraie question qui se pose, c'est pas de savoir si l'industrie vitivinicole pourra s'adapter, elle le fait déjà, mais c'est finalement quel vin voulons-nous boire demain. Est-ce qu'on veut boire des vins que nous connaissons aujourd'hui, ou est-ce qu'on accepte ce qu'on fait finalement depuis 2000 ans, de voir le vin changer?
Les vignes très consommatrices de pesticides également, c'est ce qu'on découvre dans l'ouvrage.
En France, effectivement.
14% des pesticides sont dédiés à la vigne.
Absolument, on est de très gros consommateurs, et on le retrouve d'ailleurs dans le vin. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons aussi demandé leurs avis aux vignerons bio, et notamment à ceux qui pratiquent la biodynamie, qui constatent, eux, que la qualité du vin s'améliore chez eux, effectivement, mais également qui sont les seuls capables de maintenir un sol avec une activité biologique très intense, ce qui permet de fortifier, finalement, la vigne.
Ouais, on entendait l'exemple espagnol tout à l'heure dans l'extrait du documentaire. Il y a de vraies préoccupations. C'est loin d'être un sujet tabou comme en France d'ailleurs, parce qu'on en parle assez peu dans notre pays, alors que l'Espagne est bien consciente du problème en raison du manque d'eau en particulier qui va jouer.
Alors ça tient aussi au fait que l'Espagne, le vin espagnol est tenu par des grandes maisons, donc de véritables industriels, et qui pose la question directement, puisque ce sont les organisateurs de grands colloques internationaux, et la Bodega Torres en particulier est en train non seulement de s'internationaliser, notamment en Amérique latine, mais également de chercher des terrains où cultiver la vigne en altitude.
En mai 2013, il y a un vent de panique, vous le racontez, qui a soufflé sur les vignobles à la suite d'une publication d'une étude américaine qui montrait finalement la future carte de la viticulture mondiale. Et alors là, ça fait réagir.
Ça fait réagir parce qu'une grande partie des vignobles européens étaient dans cette carte-là, en tout cas condamnés. La critique qu'on peut faire de ces travaux qui ont
été critiqués d'ailleurs.
Qui ont été critiqués notamment par des agronomes français, c'est que la photographie est à très grande échelle. Et on peut difficilement jauger de l'évolution d'un terroir dont la parcelle est parfois extrêmement petite, quelques hectares voire moins, à partir d'une photo satellite. Donc, il est clair qu'on va voir changer la géographie viticole européenne même. On va retrouver finalement la cartographie de la viticulture médiévale. Mais on ne peut pas dire si telle ou telle parcelle sera plus ou moins affectée.
C'est la vallée du Rhône qui était pointée du doigt en particulier dans
cette
étude.
La vallée du Rhône, bien sûr, mais
la frange méditerranéenne.
Aussi la Bourgogne, mais aussi toute la partie méditerranéenne, effectivement.
Comment on peut s'adapter? Alors, vous citez un certain nombre d'exemples intéressants, Valérie Laramet-Tannenberg, pour modifier les pratiques concrètement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger, par exemple, les pieds de vigne.
Alors, on va déménager les vignes. Ça se fait déjà, notamment en Amérique latine. On va remonter ou en altitude ou remonter au nord. C'est ainsi qu'on va voir de plus en plus des vignobles apparaître en Belgique, le long de la mer du Nord, en Scandinavie. On va également trouver des moyens pour que les raisins soient moins sous le soleil exactement. Alors, par exemple, en laissant plus de feuilles, ça tombe bien, ça fera moins de travail pour les vignerons. On pourrait également s'inspirer de techniques mises en place par les planteurs de tabac à Cuba, en mettant des grandes mousselines sur les vignes, ou pourquoi pas en les plantant au nord plutôt qu'au sud. On va également concevoir de nouvelles méthodes de vinification, ce que fait l'INRA, puisqu'on arrive aujourd'hui à produire avec plus de soleil des vins qui titrent 10 degrés.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça s'appelle Menace sur le vin, le défi du changement climatique aux éditions Buchet-Chastel. Sylvestre Huet, Les Dessous de la cacophonie climatique aux éditions La Ville Brûle. Et donc Le Labo Origine, 17h30 demain à Courbevoie.
C'est ça,
pour retrouver Marie-Odile Monchicourt, les scientifiques et les artistes.
Oui, oui, puis on peut aller voir sur le site de programme atmosphère.fr.
Absolument. Le festival Atmosphère. Merci beaucoup, passez à tous un très bon week-end. Merci.